France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Marc-André Solos, microbiologiste spécialiste des champignons au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Comme le dit souvent un de mes amis, la vie est belle. Elle est belle de complexité, elle est belle parce que toutes les espèces y ont des alliés minimes, elle est belle enfin parce que notre jouissance du monde couronne ses symbioses microbiennes. Comptez plutôt à présent les joies et les microbes. L'heure de la sieste arrive, je m'installe à l'écart, à l'ombre d'un bosquet aux feuilles chargées d'acariens bienfaiteurs, mais je ne suis toujours pas seul, ni ne puis l'être, moi qui sombre dans le sommeil. Né déjà riche en mitochondries, je fus rapidement colonisé de toutes parts. Je mourrais peut-être d'une bactérie et sans doute pourrirais-je par des microbes, même si l'on brûle mon corps. D'autres microbes utiliseront mes cendres pour eux ou peut-être pour une plante. Mais au-delà de ce qui ne m'arrivera jamais qu'une fois, chaque geste, chaque mot, chaque idée, chaque matin est rendu possible par la compagnie de microbes. Sur ma peau et dans mes entrailles, ils sont déjà aussi nombreux que mes cellules. Là, ils contribuent à ma santé et mon humeur. Au fond de chacune de mes cellules, sous forme de mitochondries, je suis habité de bactéries 10 à 1000 fois plus nombreuses que les cellules qui les contiennent. Finalement, je suis un écosystème microbien, riche de la diversité qui l'habite et numériquement bactérien. La maladie et le pourrissement sont bien microbiens, mais ils ne sont qu'un état exceptionnel, le chef-d'œuvre quotidien de la vie animale et de la vie végétale est cousu de microbes symbiotiques en chaque instant, en chaque organe, en chaque fonction. Ainsi, moi-même et tous ceux qui m'entourent sommes-nous construits comme des émanations de l'invisible qui est en nous, toujours et partout, en vertu de quoi nous ne sommes jamais seuls. Belle-Île-en-Mer, 20 août 1916. Bonjour Marc-André Solos.
2016, j'en ai peur.
2016.
Je suis un peu moins vieux que ça,
absolument.
Mathieu.
Absolument. Vous allez bien?
Oui, oui, très bien. Les microbes aussi.
Un texte qui est extrait de votre ouvrage Jamais seul, qui a été publié chez Actes Sud et dans lequel vous montrez à quel point les microbes jouent un rôle essentiel dans la vie de tous les organismes. Vous qui êtes microbiologiste, spécialiste des champignons qui, paraît-il, vous intéressent depuis très très longtemps, depuis votre enfance. Et c'est l'occasion de remonter le fil de votre histoire qui commence le 29 mars 1968.
Exactement.
À Paris. Et voilà ce qu'on pouvait entendre ce jour-là sur France Culture dans le magazine de la science.
Les nouvelles brèves par Michel Rouzet.
La troisième conférence des ministres responsables pour les questions scientifiques s'est tenue au château de la Muette à Paris. Le rapport met en lumière les inégalités et les défauts d'organisation qui entravent le développement de la recherche. L'équipe de plongeurs du commandant Cousteau a pu pour la première fois filmer des baleines au cours de leurs évolutions sous l'eau. Ces études seront poursuivies au cours des prochaines années, a conclu le commandant Cousteau. En étudiant le limon recueilli dans les grandes profondeurs de l'océan Pacifique, des biologistes soviétiques y ont trouvé une dizaine de sortes de bactéries, inconnues jusqu'ici, et capables de se développer, de se multiplier, sous une pression de 1000 atmosphères.
Voilà le journal de la science du jour de votre naissance, Marc-André Solos, avec cette archive du 29 mars 68 à Paris, retrouvée par
vendredi.
Samia Djedaï, un vendredi. Que vous inspire cette petite photographie sonore ?
Bah ça, un nom de mon enfance, hein, le commandant Cousteau, ça fait partie des choses qui bâtissaient les imaginaires de ma génération. Et puis alors aussi, cette dizaine de bactéries dans les limons,
quand même.
Les sédiments profonds. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la biologie de l'ADN, ce n'est pas 10 espèces qu'on trouverait, mais sans doute plusieurs milliers d'espèces nouvelles. Et je mesure combien on a la chance aujourd'hui d'avoir d'autres outils pour voir la diversité du monde microbien, la diversité du monde vivant et de là, tous nos liens à ce monde vivant.
Technologiquement, il s'est passé beaucoup de choses hein, depuis 1968. Dans quel contexte social et familial est-ce que vous êtes né, Marc-André Solos ?
Moi, j'ai un père ingénieur des travaux publics, une maman qui est prof d'histoire géo. Donc, on lit beaucoup, on parle beaucoup.
C'est vrai ?
Oui. Et puis on a les grands-parents qui sont là, et ça c'est important parce que du coup, le mercredi, on va au bois de Vincennes. Il y a aussi un lien très fort à Belle-Île-en-Mer, on en parlait tout à l'heure, c'est encore là que moi je passe l'été, où j'ai la chance d'aller à la campagne, comme on dit, hein, et de travailler dans une exploitation agricole, donner un coup de main à de multiples tâches, et puis alors à l'ancienne, parce que Belle-Île-en-Mer, dans les années 70, c'est pas l'agriculture moderne.
Hein. Vous travaillez avec des paysans bellilois ?
Oui, oui, un copain de mon père, j'ai fait les foins, j'ai récolté des patates, trait des vaches, vidé des porcheries, vidé des étables.
Ouais.
Enfin, ces gestes-là, je les ai faits, et toujours, ils ont teinté ma vision de la nature, mais aussi ma façon d'enseigner. Moi, j'emmène beaucoup mes étudiants dans des exploitations agricoles, parce que je pense qu'il y a des tas de leçons de biologie et d'illustrations de biologie à prendre.
Ouais, vous leur faites retourner le foin aussi,
Élisée. On ne peut pas aller jusque-là.
Et pourquoi pas ?
Non, mais pourquoi pas ? Bon, malheureusement, on manque souvent d'argent pour sortir les étudiants longtemps. Donc, on va à l'essentiel et on capte quelques concepts dans les pratiques.
Est-ce que vos parents étaient sensibles à l'environnement ? Est-ce qu'il y avait déjà les prémices du futur biologiste que vous êtes ?
Ça leur est venu plus tard et peut-être en interaction avec leurs enfants plutôt. Hein. Disons qu'ils étaient sensibles à ce qui se passait autour d'eux, observateurs, oui, mais ils n'étaient pas tellement naturalistes. Et ce qui est marrant, c'est que, et moi et mon frère, on va finir par être naturalistes. Mon frère, c'est les oiseaux. Moi, très tôt, ça a été les champignons. Et ça montre qu'on n'est pas que le produit de son milieu socio-culturel et que certaines formations, certaines trajectoires d'enseignement ou d'éducation des enfants peuvent ouvrir des possibles que la génération précédente n'avait pas réalisé.
Donc on peut échapper au déterminisme.
Enfin, peut-être pas complètement, hein, mais... Oui,
un certain déterminisme, en tout cas. Ouais.
En tout cas, une belle éducation, c'est une éducation qui ouvre des possibles, et pas simplement la reproduction de ce qui est fait déjà.
Et alors, ces balades au bois de Vincennes, c'était votre premier contact réel, donc de petit parisien avec la nature ?
Oui. Oui, il y a ça, c'est mon grand-père qui m'y emmène. J'allais pas à l'école maternelle, hein. À l'époque, c'était pas obligatoire. J'étais au bois tous les jours, et puis après c'était juste le mercredi et le samedi où on allait avec lui. Mais effectivement, moi je traîne dans les bois, et alors il répugne un peu à me voir mettre les mains dans la terre et partout, mais moi je farfouille, parce que j'ai toujours été curieux de nature, et de la nature, je veux dire, vraiment ça me... chaque fois qu'il y avait des formes nouvelles, je me rappelle, à une époque je ramenais juste des trucs parce qu'ils avaient des formes bizarres. Et finalement, la forme bizarre sur laquelle je suis tombé pour toute ma vie, c'est celle des champignons.
C'est vrai. Et ça vous attire petit, en fait. Vous avez un intérêt déjà pour la question des champignons, à quel âge ?
Ils cristallisent en classe de 5e, parce que le prof de bio est... Par parenthèse, ça montre que nos enseignants peuvent avoir des effets déterminants sur notre avenir. Hein. Notre prof de SVT, M. Déclaron, nous demande de ramener des champignons pour la séance suivante. Et là, moi, je vais rester toute ma vie scotché sur la consigne. Parce qu'en fait, je découvre que les formes sont extraordinairement variées, que c'est plus divers que les végétaux, et je commence à essayer de vouloir leur donner un nom à tous. Ce qui n'est pas toujours évident, surtout vu les bouquins de l'époque. Hein.
Et donc vous ramenez des champignons dès que l'occasion se présente ?
Chaque fois que je vais au bois, et même d'ailleurs des fois j'en trouve en ville, hein, je les ramène, je les dessine, je récolte les spores, bientôt je fais des observations au microscope.
Et vous en parlez avec vos copains de classe ou pas ? Ou ça reste une activité assez solitaire pour vous ?
Non.
Voire incomprise ?
Ça c'est un truc que je partage pas beaucoup, effectivement. Ça c'est vraiment solitaire, oui.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas d'intérêt.
Ah
on
bon
parle d'autre chose.
Oui. Bah, c'est votre métier, pourquoi il n'y aurait pas d'intérêt ?
Ah mais, qui est d'intérêt à étudier les champignons, on va en parler tout de suite. Hein. C'est fondamental. Non, c'est plutôt une sorte de jardin secret. Et c'est vrai que là, je ne suis pas tout à fait interséquent avec les préoccupations de mes copains de classe. C'est pas que je n'ai pas des copains de classe, hein, j'ai une vie relationnelle à peu près normale. Quoique des fois, on se fout un peu de ma gueule parce que je me pose des questions tordues et je raconte des histoires compliquées.
Quoi par exemple ? Quelles questions vous vous posez quand vous avez cet âge ?
En fait, j'ai déjà ce défaut de vouloir raconter des histoires. Et des fois, je ne peux pas fermer ma gueule, j'essaie de raconter un truc, mais évidemment, il est trop complexe et trop tordu pour la situation où je rapporte l'histoire. J'espère m'être poli de ce point de vue-là. Et donc, c'est vrai que des fois, quand j'essaie de partager, c'est pas forcément bien fait. J'espère que c'est mieux fait maintenant.
Et ça plaît à votre prof, ça ? À votre instituteur ou pas ?
Il y en a qui sont complètement dépassés. Et la maîtresse... De CE2 propose à ma mère de m'orienter parce que vraiment je suis pas comme les autres, de m'orienter dans des sections spéciales.
Et c'est-à-dire ?
Ben, pour des enfants qui ont besoin d'une pédagogie appropriée à un développement intellectuel pas standard. Donc, le bilan, c'est que ma mère m'emmène faire des tests psy et puis décide que finalement, je vais continuer comme les autres. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite tendance et c'est peut-être à cause de ça qu'après, je fais ça dans mon coin et je la ramène pas, pas trop. Mais par contre, c'est quelque chose qui me nourrit parce que ce que je récolte le week-end, eh ben, ça alimente toute ma semaine de loisirs, de dessiner, observer, et voilà.
Et ça va même alimenter toute votre vie, vous qui êtes donc un enfant qui a passé beaucoup de temps au contact du sol. Donc vous avez ces souvenirs aussi sensoriels
de ça. Oui.
Les odeurs de la terre.
Alors, les odeurs et les touchés. Mais alors vous savez, en mycologie justement, alors c'est une très belle école de la nature et du monde, parce qu'en mycologie on n'a pas beaucoup de critères pour séparer certaines espèces. Les odeurs, les touchés et aussi les goûts. Alors je vous dis un truc, mais il faut bien m'écouter jusqu'au bout, on peut goûter tous les champignons, il n'y en a pas qui sont toxiques par contact, il faut les recracher. Mais vous pouvez goûter même les plus mortels d'entre eux.
Oui.
Et il y a des goûts très particuliers.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites là au micro de France Inter quand même.
Mais il faut recracher.
C'est extrêmement dangereux votre message, Marc-André Selosse.
Il faut écouter jusqu'au bout.
Oui, il y en a quand même certains qu'il faut éviter absolument.
Mais les plantes, par exemple, vous ne pouvez pas les goûter toutes parce qu'il y en a qui vont vous brûler la bouche, vous endommager les muqueuses. Pour les champignons, si vous les recrachez, il n'y a pas de toxicité par contact. Et donc les mycologues, ben, ils sniffent, ils mâchouillent. Et en fait, très très tôt, moi, sur les consignes des livres, odeur d'amande amère et goût de papier mâché. Bon, alors, déjà, du coup, j'ai mâché du papier pour voir ce que c'était le goût du papier mâché. Ouais. Puis ensuite, j'ai goûté mon champignon. Et donc, j'ai très tôt été initié à ça. Et ça va me préparer dans ma vie, d'ailleurs, des choses comme le vin ou les plaisirs de la cuisine.
Et votre grand-père qui vous accompagne, il n'a pas peur de vous voir, justement, mettre des choses à la bouche ou
Alors, il y a même des fois, il faut faire ça un peu quand il a le dos tourné. Hein,
oui, quand même, ouais. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, les enfants passent beaucoup plus de temps devant les écrans qu'à jouer à l'extérieur, avant même d'imaginer qu'ils puissent mettre les mains dans la terre. On parle même d'un syndrome de déficit de nature. Est-ce que ça vous préoccupe, vous ou pas, en tant que biologiste ?
Dans mon dernier livre, Nature et préjugés, je donne cette distance. Hein. Nous vivons tous en moyenne à 16 km de l'endroit de nature spontanée le plus proche. Et finalement, les gamins, le monde qu'ils voient, c'est plus le monde des dessins animés, c'est plus le monde de la ville, et il n'y a plus cette présence de la nature. Ce qui m'a ouvert à la nature, et ce qui m'a conduit à essayer de l'éprouver et puis de la comprendre, c'est peut-être justement ce contact avec la nature, et il manque beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui l'école ait les moyens. Quelle en est l'ambition, c'est une chose, mais les moyens d'emmener les enfants assez dans la nature pour recréer ce lien. Moi, c'est ce lien qui m'a construit, je le dois à mes parents et surtout à mon grand-père.
Qu'est-ce que vous conseillez aux enfants qui nous écouteraient là cet après-midi, d'aller gratter le sol, de renifler la terre ?
À eux, je ne sais pas si je peux leur conseiller quelque chose, il faut qu'ils suivent leurs parents et qu'ils leur obéissent. Mais c'est peut-être aux parents que j'ai envie de dire, si vous avez le temps, emmenez-les se balader ou donnez-leur l'occasion de faire des activités, de s'entraîner, de choses comme ça qui leur permettent de voir autre chose que la ville où ils sont. Et puis en vacances, il y a aussi des tas d'activités, de maisons de la nature, de plein air qui peuvent aussi être des façons de se connecter à la nature. Se connecter à la nature, c'est quand même se connecter à ce qui construit notre environnement et notre alimentation. C'est important et nos civilisations payent très cher que nous en soyons déconnectés.
Hein. Justement, est-ce que le fait de passer du temps très jeune dans la nature, ça peut permettre aussi plus tard de mieux la défendre, de mieux la comprendre ? Mais aussi de mieux la défendre.
Il y a cette formule de Rilke, le poète allemand, qui parle de l'enfance comme « Die Hochhaus der Erinnerung », la maison des trésors du souvenir. Et ce qu'il veut dire par là, dans les lettres aux jeunes poètes, c'est que c'est là-dedans qu'on puise ce qu'on va faire et qu'on peut puiser le meilleur de ce qu'on sera. En fait, nous sommes des pages blanches et l'enfance est ce qui commence à écrire les têtes de chapitre de ce qui sera un livre. Et donc, je crois que ce qu'on teste dans l'enfance, ce sont les prémices de ce qu'on va explorer après. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que dès l'enfance, il y ait ce lien. Mais il n'y a pas que ça. On peut parler du lien à la musique, on peut parler du lien à la peinture. Hein. Mais c'est vraiment le moment d'ouvrir tous les possibles pour que la bibliothèque de souvenirs soit large et fasse fructifier l'existence. Et la nature, c'est une des choses, effectivement, surtout dans un monde maintenant très citadin, et puis très construit d'écran, c'est une chose qu'il faut entretenir et laisser éveiller.
Ça ressemble à quoi, du coup, d'être l'enfant de Marc-André Selosse, puisque vous avez un petit garçon de 4 ans? Est-ce que vous l'emmenez beaucoup, justement, trifouiller la terre, au bois de Vincennes, par exemple, ou ailleurs?
Les premières sorties de mon fils, ça a été pour sentir les fleurs. On regarde s'il n'y a pas d'insectes, et puis on sent. Alors pourquoi pas les insectes? Parce qu'on peut être piqué, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et donc les premières choses qu'on a fait, c'est ensemble, quand j'ai pu le porter à l'extérieur, c'est de sentir des fleurs. Et voilà. Après, ça ressemble, c'est plus normal par ailleurs. Hein. C'est beaucoup plus normal. Mais clairement, que ce soit moi ou ma femme, qui est biologiste également, hein, et écologue des plantes en l'occurrence, on essaie de générer ça. Et de le générer aussi pour sa classe, de le générer pour ses amis, c'est-à-dire une approche sensorielle. On se posera des questions plus tard, mais elles viendront toutes seules. L'approche sensorielle.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Ah, oh. Tiens, regarde. Regarde ça.
Ah oui, eh ben, c'est du volet.
Tu vois? Oui, c'est du volet. Oui. Il est beau celui-là. Marie-Claude, viens voir ça. Hein? C'est bon ou c'est pas bon?
Ah non, là c'est une fausse girole.
Extrait du film « Quand vient l'automne » de François Ozon avec Hélène Vincent, Josiane Balasco. C'était l'année dernière. Marc-André Sellos, vous qui êtes microbiologiste spécialiste des champignons. En 1998, vous avez soutenu votre thèse sur la génétique derrière des champignons. Vous vous souvenez du titre exact de votre thèse ou pas? J'aime bien les titres.
Génétique des populations de l'Acaria bicolore inoculée sur Pseudotsuga mentesi.
Voilà.
Ou un truc comme ça.
Ouais, et ce truc comme ça, il raconte quoi en fait? Il veut dire quoi? Pourquoi ce sujet?
Bah, j'ai la chance d'arriver après 30 ans de recherche où l'équipe de François Le Tacon à l'INRA de Nancy a sélectionné un champignon qui est inoculé en pépinière sur des Douglas, hein, les Pseudotsuga mentesi, justement, améliorent leur croissance. Et donc moi, j'arrive sur des populations de ces arbres qui ont été replantés 10 ans après qu'ils aient été replantés, ils ont été inoculés. Je regarde si la souche qu'on a inoculée est toujours là. À une époque où on n'a pas tous les marqueurs génétiques de maintenant, et où il faut que j'invente des marqueurs génétiques qui discriminent ce qui a été implanté du tout venant, spontané, local. Et ce qu'on montre dans cette thèse, c'est que ça a survécu et que ça augmente de 10% la croissance en hauteur, soit 60% de bois en plus.
Grâce au champignon, justement.
Oui, grâce à ce champignon qui a été introduit sur les racines en pépinière. Ça, c'est ces fameux champignons mycorhiziens sur lesquels je travaille.
Ouais.
Ces champignons, donc, alors, je travaille depuis ma thèse et puis j'en ai fait ma carrière. Hein. Là, je ne me suis pas tellement renouvelé. C'est ces champignons qui s'associent aux racines des plantes, qui en reçoivent du sucre. Ils ne peuvent pas vivre sans les racines des plantes. Et en échange, ils vont faire les courses, en quelque sorte. Ils vont chercher de l'eau et des sels minéraux pour la plante dans le sol. C'est notamment bah, les bolets, les girolles, dont
on
parlait l'extrait,
dans le film, ouais.
les truffes également. Mais en fait, toutes les plantes, 9/10 des plantes, ont des champignons qui les aident à vivre et qui, en plus, non seulement les aident à se nourrir, mais protègent les racines contre les maladies.
Sauf que là, dans votre exemple, dans votre thèse, il y a eu intervention humaine, justement, pour favoriser la croissance du Douglas.
Bah, c'est tout le programme de l'agroécologie, par exemple. Hein. C'est l'idée de se dire que quand on a compris comment fonctionne la biologie et l'écologie d'un système, on peut l'améliorer sur la base de ses connaissances. Et là, l'idée pour le Douglas, alors le Douglas n'est pas une très bonne idée parce que c'est une essence introduite, mais à l'époque, c'était beaucoup replanté sur des terres agricoles où il n'y avait pas les champignons appropriés pour les arbres.
Ouais.
Il y avait ce qui aidait les herbes à pousser, mais pas ce qui aide un arbre à pousser. C'était de donner un boost et le fait est que ça en donnait un à ces arbres pour qu'ils reprennent mieux à la replantation et qu'ils poussent plus vite après, sachant qu'on était sur des rotations courtes à 50 ans pour des revenus complémentaires de l'agriculture.
Est-ce que ça, c'est un exemple de symbiose, Marc-André Sellos, un sujet pour lequel vous avez écrit un livre qui va beaucoup vous intéresser?
Oui, alors
c'est ça, c'est vraiment cette relation entre un organisme, un micro-organisme comme un champignon et un arbre, par exemple.
Je voulais travailler sur les champignons, et puis mais décrire des espèces ou faire des catalogues d'espèces dans des forêts, mes profs à l'école normale supérieure m'ont vite dit, tu sais Marc-André, ça t'amuse, mais ça n'amuse personne. Et de nouveau,
clair, au moins.
Il fallait que je remette ça dans la sphère privée, et c'était pas une histoire à raconter aux autres.
Ouais.
Un peu plus sérieusement, ils m'envoient vers des laboratoires qui travaillent sur les champignons, en se disant que j'aurai mes champignons, mais je vais faire une production scientifique qui est en accord avec les attentes et les financements de l'époque.
Ouais.
Et c'est comme ça que j'atterris à travailler sur les mycorhizes, donc ces associations plantes-champignons.
Ouais.
Et je vais être sidéré par le fait que des espèces différentes puissent coopérer. Ça va me passionner, j'ai bouquiné sur plein de trucs, j'ai commencé à enseigner ça, puisque très très tôt j'ai enseigné, j'ai passé l'agrégation au tout début des années 90, et mes maîtres de l'école nationale me proposent tout de suite de réenseigner. Bon. Et j'ai notamment, et puis tu me dis, qu'est-ce que tu veux enseigner? Alors, ben, je vais choisir la symbiose, parce que je trouve passionnant ces coopérations. Le microbiote qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une relation de symbiose avec les organismes comme moi, qui l'héberge. Et donc, j'ai pondre un bouquin de cours à la fin, au tout début, en 2000, hein, au tout début des années 2000, qui existe encore, sur la symbiose, pour faire le point là-dessus, ce qui n'a pas de synthèse à ce moment-là.
Donc sur ces interactions bénéfiques et réciproques avec d'autres, entre espèces, voilà. Entre différentes espèces.
Hein. Voilà. Ça va du poisson-clown avec l'anémone, jusqu'à moi et mes microbes à l'intérieur, mes fameuses plantes avec des champignons mycorhiziens. Ouais. Et en fait, ce qui émerge à la fin des années 90 et qui va submerger la science moderne, c'est qu'il n'y a pas un seul organisme qui naît de symbiote. C'est-à-dire qui naît des partenaires avec lesquels il coexiste à bénéfice réciproque.
Donc c'est une loi du monde vivant, ça?
Oui, une des lois du monde vivant, c'est qu'on n'est pas autonome. Et ça, c'est un des trucs qu'on a du mal, nous, qui pensons que l'autonomie, c'est le graal d'une existence individuelle ou d'une société. On a du mal à réaliser qu'en fait, on n'est pas autonome, on a des symbiotes, et que finalement, on peut gagner de la puissance et de l'efficacité à s'appuyer là-dessus. C'était le programme pour les Douglas, c'est le programme pour l'homme avec son microbiote, c'est aussi le programme d'une autre agriculture. C'est vraiment des outils qui ne sont pas encore parcourus pour agir.
Est-ce que c'est un bon programme aussi pour imaginer, construire nos sociétés humaines différemment, ça, pouvoir pousser la symbiose à son paroxysme?
Alors, tout à fait. D'ailleurs, il y a un autre mot qui court, qui est le mot de mutualisme. Alors, le mutualisme, c'est les interactions entre deux espèces à bénéfice réciproque. Hein. Elles ne sont pas obligées d'être ensemble. Quand vous avez un insecte qui pollinise une fleur, ils ne sont pas en symbiose. Par contre, ils sont en mutualisme, ça leur est réciproquement bénéfique, parce que l'insecte se nourrit sur la fleur. Et le mot mutualisme, vous savez d'où il vient? Eh bien, il est récupéré du mot mutualité, parce qu'à la fin du 19e, Van Beneden, qui crée ce mot pour des relations entre espèces, il va récupérer un mot qui vient de la société, c'est les mutualités ouvrières qui commencent de se former. Et son idée, c'est de dire ça fonctionne pareil. Alors, il y a toujours des limites, bien sûr, hein, l'homme n'est pas que le reflet de la nature, mais il y a de l'inspiration à trouver pour lire la nature dans les relations humaines et dans la nature pour les relations humaines.
Sauf qu'aujourd'hui, les interactions ne sont pas toujours bénéfiques, Marc-André Sellos, dans la nature, entre un champignon et une plante, par exemple. Il y a aussi de nombreuses fois où ça déraille.
Ah ben non. Et même mon équipe travaille sur des cas de plantes qui mangent leurs champignons mycorhiziens. C'est-à-dire que non seulement ils amènent de l'eau et des sels minéraux, mais en plus ces plantes-là mangent le carbone du champignon. Et du coup, ça leur permet de vivre dans l'ombre des forêts, où il n'y a pas trop de photosynthèse possible, voire même d'être complètement non photosynthétique. C'est notamment des orchidées de nos régions. Donc, il y a les deux types de relations. On est toujours sur un équilibre entre le risque de se faire exploiter et une relation mutualiste. Et justement, tout l'art, c'est de piloter. Et aujourd'hui, nous, dans les écosystèmes, ce qu'il faut, c'est qu'on pilote pas trop de parasites et plutôt beaucoup de mutualistes. C'est clair. La nature n'est pas bien faite, elle n'est pas nécessairement bonne. Hein. C'est pas du tout ce qu'on dit derrière la symbiose.
Ouais, mais là, elle est bonne aussi. C'est ça. Mais là, il y a effectivement des bénéfices réciproques, mais ça n'est pas que ça, effectivement. Est-ce que ce monde des microbes, des champignons, fait également l'objet d'une crise liée à nos activités humaines aussi? Est-ce que cet univers-là du vivant traverse les mêmes problèmes que le reste de la biodiversité?
Quand le rhinocéros blanc s'éteint, les microbes qui ne vivent que sur le rhinocéros blanc, que ce soit des parasites ou des symbiotes, hein, ou des mutualistes, ils s'éteignent aussi. Donc, probablement oui. Mais on n'a pas de bons inventaires depuis longtemps. Et donc, on ne peut pas mesurer comparativement ce qu'il y avait dans les années 70, puisque, je le disais un peu en début d'émission, aujourd'hui, on a de l'ADN pour déterminer la diversité des microbes qui se trouvent à un endroit. On n'avait pas ça. On a ça depuis 20 ans, quoi. Donc, on manque de recul là-dessus. Donc, sans doute, il se passe des choses, mais vous savez, les microbes sont mieux armés que nous. Leurs populations sont plus grandes. Mmh. Et qui dit plus grand dit que, bah, pour arriver à les exterminer, il faut se lever de bonne heure, et qu'il y a plus de diversité, donc plus d'adaptabilité. J'ai l'impression, mais on n'a pas vraiment de chiffres à mettre derrière ça, qu'ils souffrent moins que nous pour l'instant, mais c'est les prochains sur la liste, disons qu'ils sont plus résilients pour l'instant.
Avec quelles conséquences, si justement cette crise se renforce dans ce monde-là du vivant, dans cette partie-là des micro-organismes?
de multiples conséquences, mais la Terre ne va pas s'arrêter de tourner, il y aura toujours des écosystèmes, toujours un environnement. La vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment celui dont nous on rêve ? Je vais prendre un exemple. Il y a un endroit où la biodiversité microbienne s'effondre, non que ces microbes disparaissent complètement, mais qui ne sont plus là, c'est le microbiote humain. Le microbiote des Occidentaux, qui vivent dans des conditions indigènes excessives, se réduit en diversité. Il est 1,5 à 3 fois moins grand, divers que n'était celui de nos ancêtres ou que n'est celui d'individus qui vivent en Amazonie, dans des conditions non occidentales. Or, c'est une des portes d'entrée vers les maladies de la modernité. Diabète, obésité, syndrome autistique, Alzheimer, Parkinson, maladies auto-immunes, asthme, allergie.
Tout ça, c'est lié au microbiote.
Alors, il y a des causes multiples, on n'est pas génétiquement égaux devant ce risque. La façon dont on vit nous y pousse aussi. Mais on sait que les individus qui souffrent de ça ont un microbiote réduit en diversité. Et pour plein de raisons que je raconte dans le livre Jamais Seul, par exemple, on sait qu'une des causes, effectivement, c'est la réduction de biodiversité. En fait, le risque de la réduction de biodiversité en général, et microbienne en particulier, c'est que nous ne puissions plus faire nos petites besognes, à commencer, ouais, pour ce qui est du microbiote, par notre santé.
Donc il faut remettre de la diversité autant que faire se peut.
Oui, il faut se méfier de ne pas la perdre, parce que quand on la perd, elle reviendra. Hein. La vie, la biodiversité et l'évolution, c'est un éternel rebondissement. Mais ça risque de prendre quelques dizaines de millions d'années, ça peut nous coûter cher. Mmh. L'impératif de protéger la planète, l'environnement, la diversité, c'est l'homme. C'est qu'en fait, on peut s'en foutre de tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, il y aura toujours une planète, toujours un environnement, toujours une forme de diversité. Mais si vous vous intéressez à l'homme, vous ne pouvez pas faire l'économie de la diversité, de la planète, de l'environnement, parce qu'en fait, c'est ça qui façonne une vie digne pour l'humanité.
Et est-ce que cette crise de la biodiversité, elle est encore trop souvent sous les radars, selon vous aussi ?
Bah oui, on dit souvent de l'IPBES, donc cette plateforme intergouvernementale qui fait des rapports sur la biodiversité, quel est le GIEC de la biodiversité ? Et on ne dit pas du GIEC que c'est l'IPBES du climat. Mmh. Et ça, c'est un truc important, c'est que c'est sans doute la baisse de biodiversité ce qui va nous abîmer d'abord. On dit que 70% des entreprises du CAC 40 dépendent
directement
de la biodiversité pour leur amont, pour leur activité directement. Donc c'est là qu'on risque d'être probablement abîmé le plus vite, et je citais le problème d'écroulement de la diversité du microbiote, hein. Mais on est plus soucieux du climat, peut-être parce que juste comme on est assez nul en biologie, le climat, c'est physico-chimique. Alors là, on comprend un peu quand il fait chaud, quand il pleut plus, c'est clair. Et on a encore du mal à voir à quel point nous sommes interdépendants du vivant, à quel point nous ne sommes pas autonomes, et à quel point la baisse de la biodiversité peut nous abîmer. Donc ça passe un peu au second plan, comme une sorte d'impératif moral. Alors que si c'est un impératif moral, c'est à cause de la santé et de la vie de l'homme et des générations futures.
Marc-André Sellos, pour accéder aux demandes de certains agriculteurs, le Sénat a ouvert la voie à la réintroduction d'un néonicotinoïde particulièrement nocif pour les abeilles, donc produit phytosanitaire, utilisé par d'autres pays de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une méconnaissance grave des sénateurs sur ce sujet, dans le cadre, là aussi, d'une biodiversité fragilisée ?
Alors, je suis payé pour savoir qu'il y a des sénateurs qui font un très bon travail, mais là, c'est du plomb dans notre alimentation, hein. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le monde politique, il est varié, et il y a des politiques qui, et notamment des élus locaux qui prennent les choses en main, mais là, on est dans la démagogie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui fonctionne mal. Et c'est vrai que l'agriculture fonctionne mal, les agriculteurs en sont les premières victimes, les victimes sanitaires, hein, plus 50% de lymphome, plus 20% de myélome, à 55 ans, plus 13% de Parkinson.
Parkinson, ouais.
Donc on a un vrai problème, effectivement, de santé pour nos agriculteurs. On a des problèmes de revenus, donc il faut gérer le problème. Mais gérer le problème en continuant à faire ce qu'on faisait avant, c'est pas bon parce que ces néonicotinoïdes sont en train d'abîmer les pollinisateurs. Je vous rappelle qu'il y a des très beaux travaux en Bourgogne qui montrent que si on se met à élever des insectes pollinisateurs dans les champs de cassis, on multiplie par 4 la production, soit plus 15 000 euros par hectare. Sauf que maintenant, pour ça, faut payer les ruches ou payer les colonies d'osmies qu'on va introduire. Donc, d'abord, c'est pas bon pour la santé humaine. Deuxièmement, c'est pas une piste d'avenir. Ce qu'il faut, c'est aider l'agriculture en l'aidant à passer à autre chose. Elle a d'ailleurs toujours évolué. Et donc, il y a une forme d'immobilisme qui n'est bon ni pour les agriculteurs, ni pour la production agricole, même si c'est une mauvaise solution à un vrai problème qui est que l'agriculture va mal.
Donc, protéger une culture avec un produit phytosanitaire tout en détruisant les insectes et donc le processus de pollinisation, en fait, ça n'a aucun sens, on est d'accord.
Mais en fait, ils sont trop larges, ces produits. C'est ce que disait déjà Rachel Carson. Elle disait que c'est des gourdins. C'est-à-dire ça, ça, et bien sûr, ça tue les insectes qui sont indésirables. Mais c'est un spectre très large et ça va tuer aussi ceux qui sont la carcasse de vos écosystèmes. Et ça tue notamment un certain nombre d'insectes comme les syrphidés, qui sont des pollinisateurs, mais dont les larves, il faut le rappeler, sont assez souvent des trucs qui mangent les pucerons et les parasites des cultures. Donc en fait, c'est beaucoup trop large. Et l'espoir de l'agroécologie, l'espoir d'appliquer l'écologie à ces questions-là, c'est de remplacer ces molécules à spectre très large par des cocktails de solutions, des haies qui empêchent la propagation des maladies, des mélanges variétaux avec des profils de résistance différents. De remplacer ça par des cocktails de solutions basés sur notre connaissance du vivant, qui sont beaucoup plus étroitement focalisés sur ce que l'on veut repousser et qui ont moins d'effets secondaires, y compris sur la santé de l'homme.
Qu'est-ce qu'elle raconte, la crise agricole aujourd'hui que connaît la France? Elle a connu il y a un an, il y a encore des soubresauts aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression finalement qu'on prend les mauvaises décisions à la fois pour la santé des sols, celle des paysans et des paysannes et celle des consommateurs?
Ce qu'elle raconte, c'est la preuve qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est que les agriculteurs ne vont pas bien du tout. Ni financièrement, ni d'ailleurs en termes de santé. Et là, les chiffres que je citais tout à l'heure, hein, c'est la Mutualité Sociale Agricole qui nous les donne. Donc c'est pas venu de la Lune. Hein. C'est pas une organisation militante qui dénonce ça. C'est juste la santé des agriculteurs. Donc, ça va mal. Et là, je comprends pas l'envie de continuer comme avant. C'est très bizarre. Mais en même temps, je la comprends. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui ont envie de payer une autre agriculture. Or, il faudrait payer pour un changement.
C'est-à-dire payer plus cher.
Bah oui. Prenons l'exemple du bio. Le bio, il a une vertu, hein, c'est qu'on met beaucoup moins de pesticides. Et notamment, c'est vertueux pour les agriculteurs eux-mêmes. Mais vous avez bien vu que c'est un tout petit peu plus cher. Et dans un contexte où les denrées alimentaires se sont renchéries, on a eu une baisse de la consommation de bio
oui,
de 5-6% par an.
Dans un contexte aussi où les gens ont de moins en moins d'argent, hein, où il y a une paupérisation.
C'est vrai. Mais le fait est que ça reflète bien le fait qu'il n'y a pas de filet pour une agriculture qui prendrait des risques pour produire autrement. Donc aujourd'hui, la responsabilité de ne pas vouloir changer, elle est distribuée entre un monde agricole qui n'arrive pas à voir les autres possibles et la capacité à continuer d'évoluer comme ils ont toujours évolué, et le fait que les citoyens ne mettent pas de filet de sécurité sous l'agriculture. Or, à côté de ça, des gens comme moi ont produit des travaux de recherche qui montrent des possibles, des alternatives. Et à l'INRAE, il y a des travaux dans des bassins de production qui montrent qu'en plus, ça marche.
Notre désintérêt pour le monde agricole, parce que c'est ça aussi, hein, c'est une société finalement qui s'est détournée du monde paysan.
Ah, je vous sens venir.
Ben, on va le payer cher quand même.
Mais
non,
c'est surtout que c'est le produit de ces gamins qui ne vont pas dans la nature. Alors moi, je fais partie de ceux qui, en écrivant les programmes du secondaire, ont mis en seconde une sortie d'année pour le cours de SVT où on va dans la nature, dans une exploitation agricole, pour comprendre d'où vient la nourriture et quels sont les gestes agricoles. J'y crois vraiment, je le disais tout à l'heure, hein, ça. Sauf que quand vous avez une heure par semaine, vous ne pouvez pas emmener vos gamins pendant une demi-journée, vous passez un mois à rembourser les heures que vous avez empruntées à vos collègues. En fait, aujourd'hui, on a un déficit d'enseignement de ces disciplines et qui ne permet pas de retrouver le lien à cette diversité et à l'environnement, le lien fonctionnel que nous avons.
Le résultat des élections agricoles aujourd'hui, Marc-André Sellos, qu'est-ce qui vous inspire? La FNSEA, les jeunes agriculteurs qui ont perdu une quinzaine de chambres d'agriculture, les bonnets jaunes de la coordination rurale, qui avait été à l'origine d'ailleurs du mouvement de protestation, qui ont fait une percée. Malheureusement, la Confédération paysanne très peu présente, alors même qu'ils prônent l'agroécologie.
Un petit peu, mais c'est vrai que la coordination rurale est sur plus 10, plus 15. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est de nouveau cette envie de pas bouger sous prétexte que ça va mal. Merde, quand t'es sous la pluie et que t'es en train de t'engluer dans la boue, il faut bouger. Il faut bouger. Et donc, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que sur un vrai constat de problème, parce que l'agriculture souffre, alors qu'elle est vitale pour nous, hein, c'est vraiment une belle activité de base pour l'humanité, l'envie de ne pas bouger et de faire comme avant, c'est la pire solution quand ça va mal.
Sauf que comment Marc-André Sellos, un professeur de biologie en cravate comme vous, avec un joli gilet, un joli costume, peut se faire entendre, ou quel lien il peut créer aussi avec le monde paysan?
Des fois je mets des bottes et je fais des formations d'agriculteurs. J'ai fait beaucoup de formations Vivea, j'en ai fait une il y a une quinzaine de jours, près de Nevers. Alors là, j'étais pas en bottes, mais éventuellement, il y a des séances de terrain, et bon, je sais mettre des bottes pour aller sur le terrain. Je sais aussi raconter...
Vous arrivez à parler à ce monde paysan ?
Je sais aussi raconter que moi, j'ai connu la misère paysanne et l'activité paysanne. Je vous rappelle mes vacances d'enfance.
Oui, oui, mais maintenant vous êtes adulte et vous êtes professeur.
Mais ça me permet de raconter des choses qui sont entendables. Et vous avez entendu ce que j'ai dit juste avant ? dans le respect des agriculteurs, parce que des fois, le fait que les agriculteurs fassent des trucs qu'on n'aime pas, du coup on n'aime pas les agriculteurs. Oui, c'est entendable d'une partie des agriculteurs qui a envie de bouger, et si on parle aux agriculteurs dans le respect de leur profession, et qu'on leur montre d'autres perspectives, ils sont pas fous, hein. Ils savent très bien qu'il faut un moment bouger pour aller au-devant de la société et d'une production plus durable.
France Inter. La terre au carré.
Rez-de-chaussée envahi par l'eau, cave inondée, près de 400 personnes évacuées de manière préventive. Si hier, plusieurs quartiers de la capitale bretonne avaient les pieds dans l'eau, aujourd'hui, une légère décrue semble s'amorcer.
Moi, j'ai eu le temps de sortir ma voiture. Il y a eu de l'eau jusqu'au plafond, ça a un peu baissé ce matin.
Autre quartier, autre ambiance, à la Bélangerie, ce sont les pompes à eau qui tournent à plein régime pour évacuer le trop-plein d'eau dans les sous-sols.
C'était complètement plein, là, la mode brûlant, là, la ruche. Oui, ouais, ouais. On était complètement isolés, on avait l'impression d'être sur une île.
Voilà, reportage du 28 janvier dernier sur France 3 Bretagne autour des inondations. Marc-André Sellos, avant-hier, vous avez publié dans Le Monde une tribune concernant le rôle des sols face aux inondations et aux sécheresses. Inondations dans l'Ouest, en Bretagne, en Haute-Loire, dans les Hauts-de-France, à Cannes, à Valence, en Espagne. Pourquoi les sols ne peuvent plus jouer leur rôle de capteur d'eau? C'est ce que vous expliquez dans cette tribune.
Alors là, on est au cœur de deux choses. La première, c'est que quand il y a des inondations, il y a des gens qui perdent tout, qui perdent éventuellement leur raison de vivre. Ça nous fait des dépressions, voire même qui perdent la vie pendant les inondations. Hein, d'accord ? Donc, on est sur un lien environnement-santé, d'abord. Et deuxièmement, on est aussi sur l'idée que nos disciplines sécrètent des solutions. Et en particulier, la prise de conscience que les sols, c'est eux qui pompent l'eau ou pas. Alors, je vais donner un exemple. Je ne voudrais pas avoir l'air de m'acharner sur le labour, parce qu'il y a des fois, on est obligé de labourer, mais on laboure beaucoup trop. Quand vous labourez, vous tassez le sol profond, donc l'eau ne rentre, c'est ce qu'on appelle une semelle de labour, l'eau ne rentre plus en profondeur, vous déstructurez la surface, vous oxygénez le sol d'une façon très intense, qui fait que les bactéries respirent la matière organique. Plus de matière organique, plus de vie de champignons, plus de vie de racines, vous faites plus de trous, et votre sol devient instable. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, beaucoup des inondations sont des coulées de boue.
Donc on n'a plus ce rôle d'éponge, en fait, du sol.
On n'a plus le rôle d'éponge. Vous cessez de labourer. Vous mettez de la matière organique dans le sol en amenant au maximum les engrais sous forme organique et en ayant des cultures intermédiaires qui évitent d'avoir un sol brun et soumis à l'érosion en hiver, des cultures d'hiver, donc dites intermédiaires que vous allez broyer au sol avant de faire votre semis. Vous amenez de la matière organique au sol. Vous cumulez les deux, vous augmentez les capacités des sols à avoir des réserves en eau. Oui, mais ça va plus loin.
Sauf que, attendez, en ville, à Redon, à Rennes ou à Valence, en Espagne, on n'est pas là à labourer. On a un autre problème qui est celui du béton, de l'artificialisation.
Ben, c'est encore villes. Une histoire de sol, Mathieu. Je pense que cette question est faussement naïve. L'idée, c'est qu'on a besoin que dans nos villes, il y ait d'énormes zones qui soient végétalisées et qui dit végétalisées avec un sol en dessous. Parce que si vous n'avez pas un sol qui recueille de l'eau quand il pleut, vous allez faire crever l'été ces arbres. Donc vous attendez qu'ils fassent des îlots de fraîcheur.
Donc ça veut dire quoi? Faut débétonner?
Eh bien, il faut faire, c'est ce que Berlin est en train de faire, et pour être honnête, il y a quand même beaucoup de villes en France qui essaient de faire ça, il faut y penser la ville éponge. C'est-à-dire la ville qui stocke de l'eau qu'elle évaporera par ses plantes quand il fait chaud en été, mais de l'eau aussi qui fait qu'on va écréter au maximum les inondations. Il nous faut des sols en ville, il nous faut des villes qui cessent de grandir. Et vous voyez que le zéro artificialisation net, il a un lien à la gestion des conséquences du changement climatique. C'est qu'il faut que les villes cessent de grandir et maintiennent un maximum de sols autour d'elles pour écréter les inondations.
Donc il faut enlever du béton aussi.
Oui. Oui, il faut un autre aménagement urbain. En fait, ça n'empêchera pas des événements. On se dirige vers des sécheresses estivales, hein, moins 40% de précipitations estivales en 2080, et des surcroîts de pluie en automne et en hiver, avec finalement une moyenne annuelle qui sera la même ou un tout petit peu plus d'eau. Donc, on va avoir des inondations, on va avoir des sécheresses. Mais, et donc, il faut absolument lutter contre le changement climatique, parce que ça ne sert à rien d'éponger chez soi quand on n'a pas, tant qu'on n'a pas régler la fuite et stopper la fuite, d'accord ? Donc il faut qu'on s'attaque à la fuite, le changement climatique, mais dans les solutions, il y a une meilleure gestion des sols au service de l'écrêtement des inondations et finalement de la santé et du bien-être de l'homme.
Les sols européens ont perdu la moitié de leur matière organique depuis les années 50. On va écouter cette archive de 1969.
Contrairement à ce que pensent certaines personnes, le sol est extrêmement riche en micro-organismes. Dans les sols moyennement fertiles, on peut admettre que chaque gramme de sol contient de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 9 micro-organismes, ce qui veut dire que dans chaque gramme de sol fertile, on peut trouver 1 million ou 10 millions ou 100 millions de micro-organismes qui sont essentiellement des bactéries, des actinomycètes, des champignons.
Yvon Domergue, de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-mer. C'était en 69. Est-ce que les ordres de grandeur sont toujours les mêmes? Puisque justement, la matière organique, elle a énormément perdu depuis les années 50. On est toujours à peu près dans les mêmes ordres de grandeur.
Non. Dans les sols agricoles, notamment les sols labourés, ça s'est écroulé. Moins pour les bactéries, qui, elles, dans le labour, elles survivent, elles sont dans les grains, dans les mottes. Hein. Mais pour les champignons, oui, ça s'est... Et d'une façon générale, ça s'est surtout écroulé en biomasse, pas tellement en nombre d'espèces. C'est ça qui est génial, c'est que si aujourd'hui on arrête de labourer, si on met de la matière organique, si on a des sols moins perturbés et gérés d'une façon plus cohérente avec la vie, c'est le principe de l'agriculture de conservation, en 2 à 10 ans, la vie remonte de 20 à 30% en nombre
donc
de cellules, pas tellement en espèces, puisqu'il n'y a pas de courant d'extinction.
Donc il faut apporter de la matière organique au sol.
Oui, mais ce qui a surtout changé depuis l'époque où Yves Domergue parle, là c'est que maintenant on sait quelles sont ces espèces, notamment grâce à l'ADN, et puis on sait aussi, grâce à leur ADN, qu'est-ce qu'elles font et leur rôle, et on a une vision du fonctionnement des sols qui est beaucoup plus intégrée. Mais il n'en reste pas moins que les gestes sont toujours aussi simples, hein. Moins de labour, plus d'apport de matière organique, un sol toujours couvert. Et ça, je vais vous dire, non seulement ça gère la qualité de l'eau, mais ça fait aussi des sols plus durables, qui cessent de s'éroder. Avec le labour, ils s'érodent 10 à 20 fois plus vite que leur vitesse spontanée. Donc ils sont en train de fondre lentement, mais sûrement sous nos yeux. Et ça, c'est important, parce que souvent les gens disent « Oui, mais vos agricultures alternatives vont-elles nourrir l'humanité ?» Alors, la réponse d'abord, c'est que quand on regarde bien les travaux de recherche, oui, l'agroécologie peut nourrir l'humanité, mais surtout... Est-ce que c'est nourrir l'humanité que de faire fondre le sol qui va nourrir mes enfants, putain ? Ça s'appelle nourrir l'humanité maintenant, en assoiffant, parce qu'il n'y aura plus d'eau, et en faisant mourir de faim nos enfants. Déjà, il faut regarder les choses en face. L'agriculture d'aujourd'hui ne nourrit pas l'humanité de demain. Et déjà, pour l'humanité d'aujourd'hui, les pesticides font que, franchement, elle les nourrit en raccourcissant la vie de certains d'entre nous. Mais il faut voir qu'il y a des solutions dormantes. Et alors, bon, je m'emporte un peu, mais... Le vrai problème, qu'on voit très bien, c'est qu'un type comme moi, un scientifique, peut proposer, montrer les issues de secours.
Est-ce qu'on vous entend pour autant ?
Le vrai problème, c'est est-ce que la société a envie d'aller vers les issues de secours ? Parce que c'est bien de dire qu'il y a des solutions, mais il faut que les gens aient envie de les... Et alors aujourd'hui, à la fois parce que les gens sont très loin de la nature et de pouvoir croire au vivant comme solution, et aussi parce qu'on est enterré dans le business as usual, hein, on continue à produire les mêmes produits pour faire les mêmes... C'est tout le programme de la coordination rurale, hein, pardon de le dire, mais c'est on continue comme avant. Donc, entre le fait que les gens ne croient pas au vivant et le fait qu'ils ont envie de faire comme avant parce que c'est plus simple, aujourd'hui la société n'a pas envie de se diriger vers les issues de secours.
Et ça vous dit quoi, ça, vous, Marc-André Sellos, quand vous faites ce constat-là ?
Deux choses, c'est qu'il faut que je continue à montrer les issues de secours. Là, il ne faut pas arrêter, même si c'est un peu donquichotesque. Et aussi, je pense, et ça c'est tout le sens de ma présidence de la Fédération Biogé, qui est une fédération d'institutions dont le Muséum, l'Académie d'Agriculture, dont je suis membre d'ailleurs, et c'est pour ça que je crois à l'agriculture, moi. Ça, c'est une partie du message qu'il faut retenir aujourd'hui. L'agriculture est la solution. L'Académie d'Agriculture, l'Académie de Médecine, la Société Botanique de France, la Société Géologique de France, bref, on a environ 80 structures qui se sont fédérées en Biogé pour être la voix du vivant en France et peser, mais c'est encore très dur, pour qu'on enseigne plus le vivant à nos enfants, non seulement plus d'heures de SVT, mais aussi plus d'interdisciplinarité autour du vivant. Après tout, le prof de lettres a des choses à dire sur la sexualité, hein, quand même, et puis le prof de physique-chimie, des choses sur le climat ou des aspects physico-chimiques de l'environnement. Donc
ça, c'est votre cheval de bataille, c'est de pouvoir allonger le temps d'enseignement autour du vivant.
Une génération qui est la sensibilité et les mécanismes intellectuels qui lui fassent plus croire en le vivant comme une solution et non pas juste un décor. Et nous, on a loupé ça dans notre génération et je pense qu'on ne peut pas refaire, on ne peut pas continuer à former pareil, sinon les mêmes causes donnant les mêmes effets. Les crises environnementales et sanitaires sont appelés à se creuser.
C'est un triste constat quand même.
Mais non, pour votre c'est communauté. L'histoire de la jeunesse.
Bah oui, non, mais d'accord, mais vous dites quand même, on n'a pas réussi à se faire entendre, donc le constat, il est quand même un peu amer.
On va parler du verre à moitié plein. D'accord ? Le verre, il est à moitié plein. C'est qu'on a la jeunesse qui est une page blanche. On a dit ce mot tout à l'heure. Je veux écrire des poèmes sur ces pages-là. Et je suis sûr que si on écrit des poèmes et pas des conneries, on aura un poids sur l'avenir différent. C'est-à-dire, on ne va pas imposer des façons de penser, des conclusions. Mais on va donner des sensibilités qui donneront plus d'outils pour construire les possibles.
Et dans ce chaos actuel du monde, là, quel rôle devrait pouvoir remplir la science, Marc-André Selloz, dans ce contexte aussi de défiance qui est de plus en plus important ?
Elle devrait arrêter de dire qu'elle a des certitudes, qu'elle discute avec la vérité, qu'elle tutoie le vrai.
Elle c'est devrait... pas la vérité, la science ?
Ah non, c'est le plus probable dans l'état des connaissances. Et du coup, ça change, alors que le message de la Bible ne change pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence avec le dogme, c'est que chaque fois que vous avez une nouvelle donnée, vous rectifiez votre point de vue et vous êtes plus près de l'opérationnel. La science, c'est l'opérationnel. Comment il marche ce micro ? Comment elle marche la radio ? Comment marche Internet ? Comment marche la voiture ou l'ascenseur grâce auquel je suis monté ici ? Grâce à ce plus efficace que représente la science. Le monde, on ne sait pas ce qu'il est. C'est une complexité innommable. Mais dans cette tourmente, la science, c'est notre meilleure bouée de sauvetage parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée, elle en fait du plus probablement opérationnel. C'est le programme de l'agroécologie et c'est le programme des technologies aussi.
Marc-André Selloz, vous nous disiez, depuis votre enfance jusqu'à vos études universitaires, vous avez cherché à raconter les bonnes histoires et vous avez eu du mal à raconter les bonnes histoires. C'est l'histoire de votre vie, ça aussi, finalement, non ?
Oui, on ne l'a pas dit assez, mais moi je suis passionné d'enseignement, j'ai commencé dès 86 et raconter, c'est non seulement agréable à faire parce qu'en face il y a des gens, mais en plus c'est la promesse qu'éventuellement si on raconte bien, ils auront envie de vivre différemment et mieux pour eux et pour nos enfants.
Merci beaucoup Marc-André Selloz. Des histoires, vous en avez raconté beaucoup dans vos différents ouvrages. Le dernier, c'est Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Et c'est aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup d'être venu au micro de La Terre au Carré. Et merci à Anna Massardier qui a préparé aujourd'hui ce dossier. On se quitte avec le répondeur et vos messages.
Bonjour, c'est Anne. Je téléphone de l'Aube et j'écoute votre émission sur la fermentation. Alors, arrêtez de parler de moisie. La choucroute n'est pas moisie. La bière n'est pas moisie. Fermenter, c'est pas la même chose. Voilà.
Bonjour, c'est Francine de Sarreguemines. Alors, le ferment, ça ne se vend pas, ça se partage. Et comme c'est vivant, c'est multiplié dans le partage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous en reprenez une toute petite part et que vous réensemencez, ça va de nouveau fermenter à profusion. Exemple avec des yaourts. Quand vous faites vos yaourts chez vous avec un vrai yaourt, avec des vrais ferments vivants, vous allez pouvoir ensuite répéter l'opération plusieurs fois. Et ça peut durer très longtemps. Par contre, si vous faites ça avec un faux yaourt, ça a l'air de marcher. La fois suivante, c'est pas vivant ce que vous mettez. C'est juste un produit chimique que vous allez rediluer un peu plus. Au bout de deux ou trois fois, vous vous rendez compte que ça n'a plus du tout l'allure de yaourt. Donc le ferment vivant, c'est pas appauvri dans le partage, c'est multiplié dans le partage.
Bonjour, moi c'est Daniel et j'appelle depuis Noisy-le-Sec. J'aimerais vous poser une petite question. Peut-on s'engager avec du divertissement alors qu'étymologiquement, se divertir, ça veut dire se détourner des problèmes essentiels ? On essaye d'y répondre avec Curieux, un orchestre à la fois pop et engagé pour l'écologie et la justice sociale. Dimanche 16 février, nous faisons un concert caritatif de 6 heures sur Twitch. Oui, 6 heures en direct. En présence d'invités de marque comme Zerator, créateur du The Event, ou Camille Etienne. Tous les fonds récoltés lors de la soirée iront à l'association Canopée qui opère pour la préservation des forêts. Alors rendez-vous le 16 février sur Twitch, vous n'avez pas besoin de compte, il suffit de vous connecter sur le site. Merci La Terre au Carré.
Bonjour à toutes et tous, je suis Christiane, j'habite à Vanves. Il y a déjà 3 ans, Hugo Clément nous informait du devenir des vêtements que nous mettons dans les bennes dédiées au recyclage des textiles. Les plus beaux sont vendus par les ONG et le reste part, entre guillemets, en recyclage. En fait, la plupart de ces textiles sont compactés et envoyés par bateau, propulsés au fioul lourd, dans des pays lointains, en Afrique par exemple, plus précisément au Ghana. J'ai décidé de jeter dans ma poubelle les vieux textiles inutilisables et soi-disant recyclables, car il n'y a aucune raison pour que, moi, j'aille polluer les autres. Je viens d'apprendre que dorénavant, les personnes jetant leurs vieux textiles dans leur poubelle sont susceptibles de recevoir une amende de 75 euros. Je suis indignée par cette mesure qui nous donne une idée du mépris que nos soi-disant élites ont envers les autres peuples. Et que l'on nous fasse croire que c'est pour préserver l'environnement est purement abject. Quand assumerons-nous nos comportements ? Merci Mathieu, Camille, Hugo, Claire, Paul de nous faire connaître ce qui se passe réellement. À bientôt.